Chapitre 44. Extension de la réforme, danger et délivrance. La nouvelle de cette réforme religieuse se répandit avec la rapidité de l'éclair en Europe comme en Amérique. Et un nombre incroyable de lettres m'arrivèrent bientôt de tous côtés pour me demander des détails sur ce qui se passait parmi nous. En moins de 6 mois, plus de 100 ministres de l'Évangile et laïcs éminents nous honorèrent de leur visite. Ceux qui nous visitèrent furent unanimes à dire que notre réforme était la plus solide et la plus remarquable des temps actuels. Nous avions adopté le beau nom de chrétiens catholiques. Nous vîmes bientôt qu'en conservant ce nom, nous établissions une nouvelle dénomination religieuse et j'aurais préféré perdre mes deux mains plutôt que de commettre une pareille erreur, le nombre des dénominations religieuses n'étant déjà que trop grand. Nous comprîmes donc qu'il valait mieux nous unir à une des grandes familles protestantes que de rester isolés. Après bien des prières et de sérieuses réflexions, nous décidâmes à nous identifier autant que possible à cette admirable Église évangélique de France qui a donné tant de saints à la terre et de martyrs au ciel. Et le 15 avril 1860, nous eûmes le bonheur de voir la grande Église presbytérienne des États-Unis nous recevoir dans son sein. Le consistoire de Chicago se réunit à Sainte-Anne pour enregistrer nos noms et nous admettre officiellement comme disciples de Jésus-Christ et membres de l'Église presbytérienne. À peine cet acte solennel était-il accompli que des missions furent organisées et des églises constituées dans les divers lieux que j'avais visités et où l'Évangile avait été accepté. Le recensement officiel fait alors nous montra qu'environ 6500 âmes précieuses avaient brisé le joug de Rome pour accepter celui de Jésus-Christ. Ce résultat me remplissait d'une joie inexprimable. Je pense qu'il est de mon devoir devant Dieu et devant les hommes de dire ici quelques-uns des dangers que j'ai rencontrés depuis que j'ai quitté l'Église romaine. Le dernier jour de l'an 1865, je forçais l'évêque de Chicago d'avouer devant les juges de Kankakee que l'extrait suivant était la traduction exacte des doctrines de l'Église de Rome exprimées par saint Thomas d'Aquin. Je le forçais aussi d'avouer que ces doctrines étaient enseignées dans tous les collèges, séminaires et universités de Rome. Quoique les hérétiques n'aient aucun droit d'être tolérés, nous devons cependant les avertir deux fois de leurs erreurs. Mais si après une seconde admonition, ils persistent dans ces erreurs et qu'ils refusent de se soumettre à l'autorité de l'Église, nous devons non seulement les excommunier, mais nous devons les livrer au pouvoir séculier pour qu'ils soient exterminés. Thomas d'Aquin, volume 4, page 50. C'est en conséquence de cette loi, qui est encore aujourd'hui la règle de l'Église romaine, comme elle l'était au jour où elle fut promulguée, que plus de 30 fois depuis ma conversion, j'ai été sur le point de tomber sous les coups d'assassins catholiques. J'ai été lapidé plus de 20 fois. C'est dans les principales villes du Canada que les pierres m'ont été lancées avec le plus de violence. Le 19 juillet 1873, à Antigonish, le pasteur Mgr Goodfellow m'accompagnait à la sortie de l'église où j'avais prêché lorsqu'il fut atteint par plusieurs pierres qui m'étaient destinées et il fut frappé si violemment à la tête qu'il tomba à terre, baigné dans son sang. Je crus qu'il allait expirer sous le coup. Je le pris dans mes bras, quoique je fusse moi-même gravement blessé et couvert de sang. Nous aurions assurément été tués là, si un généreux Écossais, nommé Cameron, ne nous eût pas ouvert la porte de sa maison, risquant ainsi sa propre vie et celle de sa famille. Les assassins, furieux de ce que j'allais leur échapper, brisèrent les vitres et menacèrent de mettre le feu si on ne me livrait pas entre leurs mains pour me prendre. Ils n'en furent empêchés que par la crainte de l'autorité. Mais ils me tinrent assiégé depuis 10 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. Pendant la nuit, ils dressèrent plusieurs fois de longues échelles le long des murs dans l'espoir de pénétrer jusqu'aux chambres du premier étage où ils me pensaient retirer. À Montréal, un soir d'hiver que j'avais prêché, je revenais chez moi avec le docteur Vicard, principal du collège presbytérien. Nous tombâmes dans une embuscade et reçûmes une grêle de pierres. Mon vénérable ami aurait été sérieusement blessé sans les fourrures dont il était couvert à cause du froid. Peu de temps après mon arrivée en Australie, j'avais prononcé un discours à Parramatta, près de Sydney. En attendant le train du soir pour retourner dans cette ville, je fus attaqué à coups de pierre. L'une de ces pierres me frappa avec tant de violence à la jambe gauche que je crus l'os cassé et j'eus peine à marcher pendant plusieurs jours. Dans un autre village, je fus frappé avec tant de violence que j'en ai longtemps gardé les marques sur mes épaules. À Archham, gros village de l'État de Victoria, des catholiques romains envahirent l'église pendant que je parlais un soir, et s'élancèrent sur moi avec leurs poignards et leurs bâtons en vociférant « Tuez-le ! Tuez-le !» Pendant le tumulte, j'échappai par une porte secrète, mais il me fallut me traîner un assez long bout de chemin sur les mains et les genoux pour n'être pas vu des assassins qui me cherchaient de tous côtés. La maison d'un de mes amis fut attaquée à coups de pierre, les meubles brisés, et je n'échappai des mains des meurtriers que par une intervention providentielle de Dieu. Dans la même province de Victoria, à Ballarat, trois des maisons où je m'étais réfugié furent attaquées et en partie démolies à coups de pierre. Monsieur le révérend Quick, qui m'avait donné l'hospitalité après que j'eus été attaqué dans la rue par plusieurs centaines de personnes, ne fut pas épargné. Ses fenêtres furent brisées et sa femme n'échappa que par miracle à la mort. Monsieur le révérend Inglis, l'un des prédicateurs les plus éloquents de cette ville, fut blessé le jour suivant par les pierres que l'on me lançait de tous côtés pendant qu'il me ramenait chez lui. À mon départ de là, pendant que j'attendais le train, une dame très bien mise s'approcha de moi et me cracha au visage en me couvrant d'une matière sale dont elle s'était remplie la bouche, puis s'enfuit à toute vitesse en me maudissant. Mon secrétaire, ayant appelé un policier, courut après elle, la saisit et la ramena vers moi. Je finissais à peine de me débarrasser de l'ordure dont j'étais couvert. Mes amis auraient voulu que je portasse plainte, mais je n'en voulus rien faire. Laissez-la aller tranquillement chez elle. Elle a cru bien faire en m'outrageant, sans doute pour obéir à ses prêtres. Notre Seigneur n'a jamais fait punir ceux qui lui crachaient au visage et nous devons l'imiter. La femme fut remise en liberté au grand chagrin de la foule qui m'entourait et voulait la châtier. Le jour suivant, je revenais le soir après avoir fait un discours dans une des églises de la ville de Castelmans, lorsque je fus encore attaqué et sérieusement blessé à la tête par des pierres. Le pasteur qui était avec moi fut aussi atteint et arriva à sa maison tout ensanglanté. Dans l'intéressante ville de Geelong, je fus deux fois attaqué à coups de pierre et ce ne fut que grâce à un vrai miracle que je ne perdis pas la vie. Pendant que j'étais à Melbourne, je reçus la lettre suivante de 12 ministres de la Tasmanie, autrefois nommés île de Van Diemen. Nous avons bien besoin que vous veniez travailler au milieu de nous. Les protestants de ce pays, bien qu'en majorité et par une déplorable apathie, laissent presque toutes les affaires entre les mains des catholiques romains qui nous gouvernent avec une verge de fer. Le gouverneur est papiste, quoiqu'il soit nommé par la reine. Mais si grand que soit le désir et le besoin que nous avons de votre visite, nous ne pouvons vous dire de venir, car votre vie sera trop en danger dans ce pays. Les catholiques romains ont juré de vous tuer et nous les croyons aussi pervers pour accomplir leurs menaces. Nous vous disons cependant que si vous venez, nous vous ferons tous un rempart de nos corps et si vous tombez, vous ne tomberez pas seul. Je répondis que j'étais le soldat du Christ qui avait donné sa vie pour nous et que je ne pourrais hésiter à exposer la mienne pour lui. Je m'embarquai donc pour Hobart Town, la capitale de l'île. Pendant que j'y prononçais mon premier discours, les catholiques, à l'instigation des prêtres et avec l'approbation publique de l'évêque, brisèrent les portes de l'immense salle où je parlais et s'élancèrent vers moi, armés de bâtons, de pistolets et de poignards. Ils n'étaient plus qu'à une vingtaine de pieds de leur victime lorsque les protestants leur barrèrent le chemin. Un terrible combat s'ensuivit où plusieurs furent blessés et où le sang coula. Nos ennemis furent chassés, mais le gouverneur fut obligé de proclamer la loi martiale et de mettre la milice sous les armes pendant 4 jours pour me protéger. Au moment où, par une nuit obscure, me rendant d'Ottawa à Montréal, je descendais du petit vapeur pour prendre le train, 2 coups de pistolet furent tirés sur moi, presque à bout portant. Les balles ne passèrent qu'à quelques lignes de mes oreilles. Plusieurs fois, à Montréal et à Halifax, les temples où je parlais furent attaqués et les vitres cassées. Bien souvent, les amis qui avaient le courage de me défendre furent blessés, et c'est à ces blessures qu'il faut attribuer la mort de 2 d'entre eux. Lorsque les prêtres virent qu'ils ne pouvaient pas m'ôter la vie avec les armes dont ils se servaient, ils cherchèrent à me paralyser par les calomnies qu'ils soutinrent souvent par serment. J'ai été gardé prisonnier par eux ou mis en liberté, sous caution, pour un temps équivalent à 18 années. Mon nom a été joint 32 fois à celui des plus grands criminels. J'ai été publiquement accusé par le grand vicaire Mayou d'avoir tué un homme et d'avoir jeté son corps dans la rivière pour cacher mon crime. Je ne rappelle pas ces choses pour attirer la haine sur mes frères de l'église de Rome, mais seulement pour montrer que cette église n'est pas changée, qu'elle est la même que celle qui a si souvent rougi le sol de l'Europe du sang des martyrs. Je désire aussi, en racontant ces faits, que le lecteur m'aide à bénir le Seigneur de m'avoir tant de fois délivré de la main de l'ennemi. J'ai souvent pu dire avec saint Paul, « Nous sommes pressés de toutes sortes d'afflictions, mais nous n'en sommes pas accablés. Nous nous trouvons dans tes difficultés insurmontables, mais nous n'y succombons pas. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non pas entièrement perdus. Portons toujours en notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus paraisse aussi en notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes à toute heure livrés à la mort pour Jésus, afin que la vie de Jésus paraisse aussi dans notre corps. » 2 Corinthiens 4, 8 à 11. Ces persécutions n'ont jamais arrêté les progrès de l'Évangile. Au contraire, elles leur ont donné comme une nouvelle force et une nouvelle vie. J'ai toujours remarqué que le lendemain des jours où j'avais été blessé et où mon sang avait coulé, les conversions étaient plus nombreuses. Jamais je n'oublierai la terrible nuit où plus de 1000 catholiques vinrent pour me tuer au sortir d'une église à Montréal. Cette nuit-là, j'avais été sérieusement blessé et j'avais perdu beaucoup de sang. Mais je fus bien dédommagé de mes souffrances lorsque le lendemain, j'eus le bonheur de recevoir l'abjuration de plus de 100 catholiques qui renoncèrent à leurs erreurs pour ne plus suivre que l'Évangile. Oh, puisse-t-il bientôt luire le beau jour où mes chers compatriotes entendront tous la voix de l'agneau et viendront tous laver leur âme dans son sang. Là, verrai-je cette heure bénie où le Canada tout entier, sortant des profondes ténèbres où Rome le tient depuis des siècles, acceptera la lumière que le Christ a apportée aux hommes pour leur montrer le chemin du ciel. En attendant, je ne puis que bénir le Seigneur de ce qu'il a fait pour mes chers compatriotes et pour moi. Depuis ma plus tendre enfance, il m'a pris par la main et m'a conduit par des voies que je ne connaissais pas, mais qui devaient me mener des régions de la nuit et de la mort à celles de la lumière et de la vie. C'est ce Dieu tout-puissant et tout bon qui m'a accordé de lire la Sainte Bible. Lorsque j'étais encore sur les genoux de ma mère, c'est lui qui m'a donné la connaissance du grand mystère de son amour. Lorsqu'à Dubuc, il m'a montré le salut et la vie éternelle comme un don gratuit offert à tous. Comme on peut le voir dans ce récit de ma vie que j'ai fait pour rendre témoignage de ce que je dois au Seigneur. Il n'a jamais laissé passer un jour sans me faire entendre sa voix miséricordieuse. Je le confesse à ma honte, je n'ai pas toujours été fidèle à cette voix pleine d'amour et de vérité. Bien des fois même, j'ai cherché à lui imposer silence, je l'ai combattu. Mais mon Dieu ne s'est jamais lassé de me porter avec tendresse, m'avertissant que je marchais dans la voie de la perdition. Il savait à quel point j'étais aveuglé par les faux raisonnements de l'Église romaine. Heureux, dans la pleine possession du don ineffable que j'ai reçu, et pressant ma chère Bible sur mon cœur comme le plus précieux des trésors, je m'avance avec joie vers la terre promise, car j'entends les pas du messager qui vient me dire « Hâte-toi de venir, le Maître t'appelle. Viens, Seigneur Jésus, viens. Amen. »